Jean-François Mounet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du directoire de Genfit. On va parler avec vous de votre actualité et puis des perspectives ensemble. On s'était vu il y a quelques mois maintenant. Ça a été une année 2015, hein, quand on la regarde assez agitée pour vous, pour les investisseurs, mais pour vous aussi sur votre actualité. Qu'est-ce que vous retenez des derniers mois sur ce qui a avancé chez Genfit?
Écoutez, je ne retiens pas le mot agitation. Je dirais qu'il y a eu des événements assez forts, hein, qui effectivement ont mis un certain temps parfois à être complètement compris, analysés, digérés. On peut les résumer, hein, les résultats de la phase 2B, complexes à expliquer, et qui finalement trouvent de plus en plus, je dirais, de raisons d'être considérés comme plutôt très réussis. Deuxième chose, je crois qu'on a annoncé des choses importantes au niveau des biomarqueurs, et tout à l'heure on aura peut-être l'occasion de parler. Moi, je pense que c'est un élément essentiel pour véritablement entrer dans le marché de la NASH. Hein. Et puis, je crois quand même que le fait qu'on puisse aujourd'hui annoncer un design de phase 3 et dire qu'en sa phase 3 sont des éléments qui sont majeurs pour une biotech. Alors ensuite, je suis assez d'accord avec vous. Je crois que les petits porteurs, les gestions, etc., ont sans doute quelques... ont été surpris par le fait que derrière, les annonces n'ont pas, notamment la dernière, pas été suivies d'un cours solidement augmenté. Mais je crois que ça résulte en fait un petit peu d'une incompréhension par rapport à l'agenda d'une entreprise. L'agenda d'une entreprise, c'est quelque chose où les choses se font progressivement. Lancer une phase 3, d'abord, c'est progressif. Dépenser l'argent d'une phase 3, c'est également progressif. Et l'idée qui en a été retenue, c'est de dire, ben voilà, ils ont une phase 3 formidable, et puis le lendemain, mais c'est pas formidable parce qu'il va falloir payer pour cette phase 3. Et tout à l'heure, je veux bien expliquer en quoi c'est quelque chose qui, moi, me laisse tout à fait serein et pas du tout aussi inquiet que, c'est vrai que la market cap, je l'aimerais beaucoup plus haute, mais l'histoire de l'entreprise, c'est avant tout une histoire médicale et industrielle.
Justement, peut-être là-dessus, quand vous voulez dire un projet médical, que Genfit, c'est d'abord un projet médical, c'est important pour vous de le rappeler par rapport à ce qu'on peut voir en bourse au quotidien.
Mais je pense que c'est un projet médical, ça l'a toujours été. Et il faut le rappeler parce que l'agenda d'un médicament, c'est terrible à dire, mais c'est 18 ans. Et quand on est à moins 2 ans d'une mise sur le marché, ou à peu près, je crois qu'on doit se rendre compte que le chemin parcouru a été considérable. Et on aurait pu avoir n'importe quel médicament à 1 000 raisons de s'arrêter avant. Donc c'est médical. Et c'est médical aussi dans le sens où si le produit ne correspond pas aux patients que nous avions à traiter, que nous avons à traiter, il n'a pas d'avenir. Il ne suffit pas de faire de la bonne communication financière pour attribuer de l'avenir à un produit si ce produit a des effets délétères sur la santé des gens. Or, on se trouve, nous, dans une situation aujourd'hui d'avoir, mais je vous l'assure avec beaucoup de tranquillité, il y a un consensus médical parfait quant au potentiel considérable du produit, tant dans la résolution de la NASH que dans le fait qu'il apporte des bienfaits thérapeutiques sur le plan cardiométabolique à des patients qui sont à risque sur ce plan-là. Donc, en ce sens, c'est d'abord un projet médical. Le projet industriel doit y coller, c'est-à-dire s'organiser pour une phase 3, signer les alliances qui vont bien pour commercialiser le produit. Et puis, je dirais que le projet financier lui-même, j'aurais tendance à dire, reflète, peut-être pas immédiatement, mais reflètera à tous les coups, je dirais, cette réussite annoncée.
On pourrait dire que toutes les biotech, ou quasiment, sont confrontées à ce sujet-là, à ce que vous dites là, entre la recherche médicale, la partie financière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, vous dites, finalement, Genfit, c'est une specialty biopharma intégrée. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça?
Alors, je ne dis pas que c'en est une aujourd'hui, je dis que c'est tout à fait une étape qu'il est raisonnable de vouloir franchir. De vouloir la franchir, pourquoi? Parce que je crois qu'il ne faut pas vouloir trancher immédiatement entre je vends tout de suite mon produit le plus vite possible au premier laboratoire intéressé. D'abord, je pense que les partenariats doivent être choisis. Il faut des gens qui connaissent la NASH, qui soient capables d'avoir une vision du long terme, qui sont déjà présents dans le métabolique, parce que c'est d'abord, c'est une maladie du foie, mais qui est d'abord métabolique avant d'avoir des conséquences sur le foie. Donc je crois que c'est important d'avoir je dirais, cette vision et de le faire avec une certaine, je dirais, un point de vue relativement structuré.
On dit sur cette NASH, donc on a le traitement, il y a le diagnostic, peut-être la prévention, en tout cas par rapport aux patients, l'information. Là, vous pouvez, vous, être autour vraiment dans cet univers-là, avoir la capacité de gérer tout ça?
Il y a de bonnes raisons de le penser et il faut chercher les clés du succès de ce produit. Il faut le chercher à travers l'histoire de GenFit. GenFit a toujours été et n'est jamais sorti du champ des maladies cardiométaboliques. Et on se retrouve à avoir donc cette connaissance très approfondie de la population générale à risque, qui sont les malades métaboliques, les obèses, les prédiabétiques, les diabétiques. Là, le traitement, effectivement, on l'a dit, répond à ces deux aspects. C'est traiter la résolution de la NASH. Et de plus en plus, d'ailleurs, tout le monde pense que traiter la fibrose devient accessoire. C'est d'abord ce qui provoque, effectivement, l'avancée vers la cirrhose qui doit être traité avant tout. La deuxième chose, je vous l'ai dit, on a voulu être très cohérent et dire qu'une biopsie, ça ne pouvait pas être un moyen valable de trouver les gens, de diagnostiquer les gens dans le futur qui doivent être traités. Et on s'est battu pendant de longues années pour sortir une capacité alternative à la biopsie, qui est un algorithme de biomarqueur. Quand je parle, la troisième chose, c'est lié à ça, quelque chose d'important, il faut éduquer les médecins et les patients. Et on est en train de créer une fondation pour faire ce qu'on appelle en anglais disease awareness, c'est de l'éducation des physicians, des médecins, mais également faire comprendre aux patients quels sont les risques qu'ils encourent pour qu'ils se dirigent vers des diabétologues, vers des hépatologues et soulèvent cet aspect NASH qui est peu connu encore. Donc il y a un gros travail à faire. Tout ça me donne le sentiment qu'on a une démarche cohérente et qu'on peut être un acteur global, ce qui d'ailleurs, sur le plan industriel et le plan du succès commercial, est à mon avis la condition sine qua non.
Comment va évoluer votre stratégie pour l'année 2015, elle est là, maintenant pour 2016?
Je crois que 2016, il faut lancer cette phase 3 et j'espère bien que les premiers patients, et je pense que les premiers patients arriveront au début d'année. Ensuite, il faut se dire que les choses vont se passer très vite. On va recruter effectivement les patients pour, vous savez, ce qu'on appelle la subpartage, c'est-à-dire cette approbation conditionnelle, certes, mais qui risque d'arriver au bout de 18 mois de traitement et qui a de bonnes chances d'arriver au bout de 18 mois de traitement. À partir de ce moment-là, il va pas falloir se réveiller en 2019 en disant, voilà, on vient d'avoir une autorisation de mise sur le marché dans pas mal de pays, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on est quand même tout à fait raisonnable et on sait parfaitement qu'il va falloir anticiper tout ça et savoir quelle va être la stratégie commerciale. Elle sera de conserver des droits sur certains territoires et de signer des alliances industrielles de commercialisation pour de très nombreux territoires sur lesquels, tout en voulant être une specialty biopharma, comme vous le disiez tout à l'heure, on sait bien que dans un secteur aussi large, avec des potentiels de produits blockbusters, ça ne sera pas seul, mais ça sera allié. Et je crois que, là encore, on répond par la même à la question du financement. Alors j'ai vu des chiffres, 200 millions, etc. C'est pas du tout ça. Pour la subpartage, c'est des sommes beaucoup moins importantes. Forcément, on se retrouve aussi avec des besoins financiers qui peuvent être en large partie couverts par le résultat des upfront de certaines alliances, c'est-à-dire des paiements initiaux. Et bien sûr, lever de l'argent, ça a toujours été à GenFit quelque chose qui a été fait progressivement, avec un esprit qui n'a pas dilué, je dirais, l'ensemble de nos actionnaires de manière trop importante.
Et surtout, on sent que ça leur fait peur, hein, quand on peut lire ici ou là, on se dit, bon, bah, si, attention, il y a une augmentation de capital qui va arriver, forcément, il y a des inquiétudes.
Vous avez raison de le souligner. Je dirais que si on se souvient des augmentations de capital de GenFit, mais si on se souvient des augmentations de capital en général, des belles biotechs, celles qui sont dans des parcours boursiers intéressants, lever des fonds, quelques semaines ou quelques jours après, rassure tellement, finalement, l'environnement, que le cours se renchérit assez systématiquement. C'était notre cas, donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas. Il est vrai que traditionnellement, et quand on prend les porteurs individuels, traditionnellement, et des fois je me moque, mais je ne devrais pas, mais le mot AKA consiste à dire que c'est la pire des choses qui puisse arriver. Revenons à ce qu'est la biotech. Dans la biotech, c'est souvent la meilleure des choses qui peut arriver à une entreprise, c'est d'avoir les moyens de son développement. Alors, je répète, ça sera sans doute un financement mixte entre l'arrivée de nouveaux investisseurs, mais également l'arrivée d'argent lié au fait que des alliés pharmaceutiques devront de toute façon payer un ticket d'entrée très important pour pouvoir avoir la Fibranor en co-commercialisation ou en commercialisation.
Oui, ce que vous aviez dit la dernière fois qu'on s'était vu, que vous n'alliez pas faire effectivement ce type d'opération dans un cours qui était le cours qui était à l'époque, qui était assez bas, par exemple. Donc vous regardez ça aussi.
Mais je crois qu'il faut regarder comment on a fait dans le passé. On continuera de le faire comme ça. L'idée pour nous, c'est au contraire d'attendre que le cours, ou de vouloir que le cours se renchérisse le plus possible, parce que ça permet de créer moins d'actions pour autant d'argent levé. Donc voilà, on est dans un dispositif où on n'est pas pressé. On n'a pas besoin de lever les fortunes qui avaient été balancées en l'air en termes de financement. Mais la raison de ces chiffres très très élevés, c'est qu'en fait, là, il y a un moment important, c'est qu'une fois le produit sur le marché, c'est-à-dire après, en gros, 2019, vous savez que l'essai continue pendant 2-3 ans et que ça continue donc de coûter un certain prix. Donc les chiffres qui ont été annoncés, qui sont d'ailleurs plus autour de 130, 140, etc., sont étalés sur beaucoup plus d'années. Mais une fois que vous avez l'autorisation de mise sur le marché, je suis certain que 100% des gens qui m'écouteront là seront convaincus que le problème de lever de l'argent ou de trouver des financements par des alliances, même si les alliances, à mon avis, seront déjà signées, n'est vraiment qu'un problème de riches.
Alors, donc, de votre point de vue, aujourd'hui, vous êtes en tout cas dans votre schéma de effectivement, cet horizon de, on parle de 2019, la partie financière, aujourd'hui, tout tient la route, quoi.
On est dans le schéma médical idéal, on est dans le schéma de développement clinique qui nous convient tout à fait, on est dans un schéma industriel où nous embauchons des spécialistes, des experts, où nous renforçons l'entreprise, et on est dans un schéma financier où les choses se feront progressivement.
Eh bien, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Merci Jean-François Mounet.
Je vous en prie, merci.